France 24 présente
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ce soir, nous recevons Juliette Méadel. Bonsoir.
Bonsoir.
Quelques mois après les attentats du 13 novembre 2015, vous êtes nommée secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, un poste qui disparaîtra sous Emmanuel Macron. Quel a été votre rôle pendant ce ministère? Est-ce que vous déplorez, dans le fond, qu'il n'existe plus?
D'abord, il fallait s'occuper des victimes qui avaient été abandonnées. En réalité, pourquoi ? Parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un attentat d'une telle importance en novembre. Donc, il fallait s'en occuper, c'est-à-dire les accueillir, leur parler et puis les guider. Vous savez, quand vous avez été victime d'un attentat, la vie, évidemment, s'effondre pour des raisons évidentes. Mais après, il faut se reconstruire. Et pour se reconstruire, il faut aller porter plainte au commissariat. Il faut être indemnisé par un fonds qui est très compliqué. Il faut avoir le soutien de la sécurité sociale. Bref, toute une série
de démarches peut-être pas
qui sont
la
très
force,
lourdes, ouais. Très compliquées. Et puis, les victimes, en tant que victimes d'attentats, n'étaient pas soutenues sur le plan politique, c'est-à-dire sur le plan symbolique. Et c'est très important. On va parler du procès, mais le symbole est très important parce que dans ces moments d'extrême détresse, quand vous avez perdu un enfant, un parent, quand vous êtes blessé, quand vous avez assisté à des scènes d'horreur, comme l'État a failli, vous avez besoin que l'État vous reconnaisse, vous aide
vous
et vous soutient.
Quand l'État a failli.
Parce que la fonction régalienne, c'est de protéger. Et le système public, qui, malgré la bonne volonté de tous ses agents, n'a pas su protéger, c'est donc dit bien donc que la fonction de sécurité n'a pas
été... Vous parlez là des services de sécurité, donc
Parle de tout ce qui est en amont d'un attentat. Tout ce qui est en amont d'un attentat, c'est les services de renseignement. Et les responsables des services de renseignement disent eux-mêmes, ont exprimé eux-mêmes devant la commission d'enquête parlementaire des attentats en 2016, qu'il y avait eu des dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements de longue date. Par exemple, on peut parler du fait qu'on a supprimé des postes dans les services de renseignement du temps de Nicolas Sarkozy. On peut parler du fait que l'État étant de plus en plus coûteux, on a cherché à baisser la dépense publique. Donc, quand il y a des situations de difficulté et que l'État est moins puissant parce qu'il a moins d'argent ou parce qu'il est moins efficace, on peut considérer que c'est une faillite de l'État. Attention, ce n'est pas une faillite des personnes, car le dévouement des fonctionnaires, les responsables politiques ont été, je l'ai vécu, ont été réactifs, présents, et ont fait tout ce qu'ils ont pu. Et puis, on a changé notre système de sécurité après les attentats. Les Américains, juste après le 11 septembre, ont changé complètement la façon de se protéger. Nous avons mis en place des contrôles aux frontières, dans les avions. Le système de renseignement a changé. Mais avant les attentats, on n'était pas préparé à ça.
Lorsque votre poste a été supprimé donc en 2017, il a été remplacé par un secrétariat général d'aide aux victimes qui était rattaché au ministère de la Justice. Est-ce que le problème, c'est que finalement l'aide aux victimes n'était plus incarnée et que cette fonction, cette aide, doit être incarnée peut-être pour finalement que les victimes sachent à qui elles s'adressent, voient un visage et un nom?
Il y a une question d'incarnation à un niveau politique suffisant pour que ce soit utile pour elles. Ce qui est important pour les victimes, c'était qu'il y ait un niveau ministériel. Un niveau ministériel, ça veut dire un secrétaire d'État auprès du Premier ministre ou un ministre.
Un poste gouvernemental
qui soit capable de dire, et c'est ce que je faisais à Matignon, c'est-à-dire là où se prennent les décisions, qui soit capable de dire, maintenant, il faut plus d'argent pour les indemniser, il faut que la sécurité sociale rembourse les séances de psy.
Mais pour les victimes elles-mêmes, vous sentiez que c'était important? Vous avez l'impression qu'elles-mêmes se sont senties en quelque sorte dépossédées de cette incarnation au moment où le poste a été supprimé?
Elles se sont senties abandonnées, d'ailleurs, elles l'ont dit elles-mêmes. Elles se sont senties abandonnées parce que c'était une reconnaissance de moins. Et donc, passer d'un poste politique important pour les accueillir et pour défendre leurs revendications à une fonction qui est une fonction qui était purement administrative, ce qui est le cas aujourd'hui, c'était un mauvais signal qui leur a été adressé.
Donc c'était un ministère de circonstances.
Oui, dans la mesure où c'est la première fois, encore une fois, qu'on était frappé par des attentats comme ça, hélas, les attentats durent. Et donc, les victimes aujourd'hui, même les victimes des attentats passés, peuvent se déclarer aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir encore des victimes à l'avenir. Et par ailleurs, il y a une autre idée qui, à mon avis, était importante dans ce secrétariat d'État, c'était qu'on aide aussi les victimes de catastrophes naturelles, d'inondations.
De victimes dans sa globalité. Enfin,
d'accidents de transport graves, parce qu'en fait, vous mobilisez, encore une fois, la fonction de protection et la fonction de solidarité de l'État. Et l'État est là pour ça. Enfin, en tout cas, quand on a du service public une vision de solidarité, c'est ça. L'État est là pour aider. L'État est là pour indemniser, pour porter. Quand on est victime d'un attentat, qu'est-ce qui s'est passé ? On est victime du hasard. On est là au mauvais moment. C'est la même chose pour un accident, c'est la même chose pour une inondation. Et c'est pour ça, au fond, qu'on forme une société. On est ensemble, parce qu'on s'entraide en cas de coup dur. Donc, c'est à ça que doit servir l'aide aux victimes.
Sur un plan personnel, humain peut-être, au fond, qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience qui doit être forte, j'imagine ? Et par exemple, avez-vous gardé des contacts avec certaines des victimes que vous aviez rencontrées à l'époque ?
Oui, il s'est noué quelque chose de très fort à ce moment-là, avec des victimes. Et aussi avec des personnes de secours, des médecins, certains militaires. Parce qu'en fait, c'est tellement douloureux que la seule chose qui vous fait tenir, c'est de construire quelque chose ensemble. Et donc, j'ai gardé des liens avec les victimes avec lesquelles nous avons construit la politique d'aide aux victimes. J'avais créé une réunion qui s'appelait « Construisons ensemble ». Et le fait d'agir en même temps, c'est-à-dire de se tenir les coudes pour faire face à ce qui est incompréhensible et abominable qui est cette espèce de barbarie terroriste, c'est une manière de tenir et ça crée des liens indéfectibles. Donc j'ai eu encore des victimes au téléphone ce matin.
On se souvient de François Hollande aussi, qui est donc à l'époque président de la République, qui va sur place. Il était au Stade de France et il vient très vite sur place, en tout cas aux alentours du Bataclan et des terrasses qui ont été visées. Et ce soir-là, vers 2-3 heures du matin, le président fait une allocution. Il est complètement bouleversé. Il en parle souvent. Est-ce que vous a-t-il confié vraiment ses états d'âme sur le sujet? Ça le poursuit encore. Il en parle souvent, même encore maintenant.
Vous savez, François Hollande ne livre pas beaucoup ses états d'âme. Tant mieux, parce que c'est ce qu'on attend aussi d'un président de la République. On n'attend pas qu'il se répande, mais je sais, et pour lui avoir parlé il n'y a pas très longtemps, je sais qu'il a été touché, bouleversé. Il l'avait été considérablement au moment des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Patrick Peloux l'a appelé. Et là, on est... D'abord, il est lui-même... au Stade de France, donc même si les terroristes n'ont pas pu se faire exploser leur ceinture de sécurité au Stade de France, il y a quand même eu une espèce de conscience du danger, et ça, il m'en a déjà parlé, parce que si les deux bombes humaines avaient explosé au Stade de France, ça aurait été épouvantable. Et ce qui se passe ensuite avec toute cette jeunesse qui anéantit une autre jeunesse, C'est ces mots-là que je l'ai déjà entendu dire, y compris publiquement, et qui sont bouleversants. Avec, en plus, cette espèce de sentiment, au moment où les faits se passent, cette espèce de sentiment d'impuissance, qui ne dure pas heureusement, mais qui a quand même conduit à 130 morts.
Peut-être on va parler du procès qui s'ouvre demain. Donc c'est un procès hors norme avec une vingtaine d'accusés, plus de 300 avocats, des centaines de témoins. Il est hors norme aussi par sa durée, 9 mois. Le délibéré est attendu pour mai 2022. Alors je sais que vous êtes de formation, vous êtes avocate de formation. N'est-ce pas tout de même un peu trop long et surtout, est-ce que vous considérez que la justice a besoin de ce temps ?
D'abord, c'est un procès très important. On ne le dit pas assez. C'est très important parce que pour la première fois, on va avoir accès à la vérité de ce qui s'est passé. Il y a peu de gens aujourd'hui qui savent vraiment ce qui s'est passé. Même les victimes ne savent pas.
Même si le témoin principal, le Salah
Abdeslam,
ne réagit pas, reste mutique, il ne dit rien.
Oui, et d'ailleurs,
attendre une vérité de quelqu'un qui se tait.
Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que la plupart du temps, les terroristes ne disent rien et sont très décevants. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ce que eux vont dire, parce qu'ils diront rien. C'est ce que l'instruction. Il y a quand même eu 6 juges d'instruction qui ont travaillé pendant 4 ans, et l'instruction va permettre de mettre à jour tout ce qui s'est passé dans les moindres détails, c'est-à-dire le déroulement des faits. On se pose des questions. Comment ils ont fait pour s'armer? Qui les a financés? Et grâce au début de l'enquête, à cette enquête qui va se montrer là, on voit qu'il y a une cellule qui en même temps était la même et qui préparait l'attentat de Zaventem en Belgique, qui a eu lieu quelques mois plus tard. Et on voit cette myriade, cette constellation, cette organisation puissante qui va se dérouler sous nos yeux. Donc, c'est très important parce que on a besoin de comprendre. Et comprendre, c'est essayer d'avoir accès à toute cette organisation. Et ça, c'est le travail des juges d'instruction. Et c'est aussi important parce qu'il faut que les victimes puissent s'exprimer. Toutes, évidemment, ne vont pas le faire. D'ailleurs, il y en a une large partie qui a décidé de ne pas être à Paris et de prendre le large. Et une petite partie qui m'a dit, j'en ai rencontré certains qui m'ont dit, mais nous, on veut être là et on veut regarder dans les yeux Salah Abdeslam. Et on veut pouvoir, non pas comprendre, non pas essayer d'attendre quoi que ce soit, mais on veut qu'il y ait une confrontation des visages. Parce qu'au fond, c'est ça le procès. Il va se dérouler sur un temps long, qui est un temps nécessaire pour la France, pour nos enfants, et aussi pour que dans l'histoire, on arrive à expliquer ce qui s'est passé. Et puis, dernier sujet, ouais. Mais non des moindres, la question démocratique. C'est-à-dire que les terroristes ont cherché à nous anéantir d'une façon effroyable, avec une sauvagerie incommensurable. Et nous, la France, nous allons répondre par la démocratie. Et nous serons, et c'est ce qu'on dit, c'est ce que dit le ministère de la Justice, qui a, au passage, remarquablement préparé les choses, organisé cette salle, qui est une salle d'audience très belle, qui vraiment laisse à chacun sa place. Ce que dit aussi le ministère de la Justice, c'est que la procédure elle-même sera heureusement respectueuse des droits de la défense. Et n'oublions pas ça. C'est ça, la fierté et l'honneur de la France, c'est qu'à la barbarie terroriste, nous répondons par la démocratie et par la justice.
Vous êtes avocate, Juliette Méadel. Si vous essayez un instant de vous mettre dans la peau d'un avocat de la défense, comment défend-on un terroriste ou un présumé terroriste qui, au nom d'une idéologie mortifère, a commis ou a participé ou a contribué à l'exécution d'attentats aussi épouvantables?
Alors d'abord, on l'est en général, et c'est le cas là, de ce procès, on l'est parce qu'on est commis d'office. Donc on ne le choisit pas. Mais quand on choisit ce métier d'avocat, on le fait parce qu'on veut défendre la défense, quelle que soit l'étendue.
On défend l'idée de la justice.
On défend la démocratie. Ouais. C'est-à-dire
qu'on ensuite, il faut quand même s'attaquer au dossier et prendre en main le dossier de la personne qu'on est chargé de défendre.
Oui, mais voyez, par exemple, là, dans les prévenus, il y en a 14 qui seront présents. Il y en a certains qui ont conduit une voiture, qui prétendent qu'ils ne savaient pas pourquoi ils conduisaient la voiture dans laquelle il y avait les terroristes. Donc, le travail de l'avocat, c'est de montrer que si cette personne-là ne savait pas qu'elle était en train de conduire un terroriste, on ne peut pas la condamner. Et heureusement que la défense est là. C'est fondamental parce que les victimes ne réclament pas vengeance. La justice, ça n'est pas la vengeance. C'est très important. On ne peut pas se comporter comme...
Les audiences peuvent faire apparaître des vérités que l'instruction n'a pas fait apparaître.
Bien sûr. Il y a des vérités parce qu'il y a des émotions qui vont sortir. Il va se passer d'abord dans la tête des victimes et dans l'expression de certaines victimes, il va se passer quelque chose. Et il peut y avoir des réactions des prévenus. On ne sait pas. Vous savez, je crois qu'on sous-estime la tension émotionnelle et humaine qui aura lieu lors de ce procès. Quand on écoute le récit des victimes qui racontent comment le sang leur est dégouliné dessus, comment ils ont passé 2 heures à trembler parce qu'ils ont cru qu'ils allaient mourir. Là, il y a quelque chose qui se passe dans une salle d'audience qui relève, certains disent, la catharsis, mais qui peut produire une surprise, une nouveauté dans l'accès à la vérité.
Alors, l'attentat a fait aussi des dégâts politiques, parce que François Hollande, lors d'un congrès à Versailles, c'est 3 jours après les attentats, réunit le congrès et propose la déchéance de nationalité. Pendant 4 mois, il y aura des débats houleux, la majorité se déchire et le président de la République finit 4 mois après, le 30 mars, par dire que dans le fond il jette l'éponge parce que pour lui c'est hors d'atteinte puisqu'il faut la majorité des 3/5. Est-ce que ça a été une erreur politique de perdre son temps avec cette déchéance de nationalité qui en plus n'aurait pas fait bouger grand-chose?
Oui, c'était une faute politique. C'était même déflagrateur auprès de la gauche, dont je suis, et nous étions tous convaincus qu'il fallait pas le faire. Ça, ce sont des choses que j'ai eu l'occasion de le dire à François Hollande. On a un peu des débats, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de trois jours après les attentats.
C'est une proposition qui n'a pas choqué les Français, en revanche.
Non, mais exactement. Trois jours après, il y a une unité nationale qui est là.
Et c'est ça tout le sujet. C'est que nous, au PS, on commence à tiquer, à coincer. Moi, j'en parle à Jean-Christophe Cambadélis. Bon, on n'est pas content. Mais les sondages, et c'est ce que me répond d'ailleurs Manuel Valls à l'époque, il me dit, mais t'es bien gentil, mais en réalité, 90% des Français sont pour. Mmh. Bon. Donc là, il y a... en réalité, qu'est-ce que c'était, cette mesure de déchéance? C'était purement symbolique. Parce que ça n'aurait pas changé grand-chose. Il y avait 4 ou 5 personnes qui étaient déchues de leur nationalité par an. Oui. Donc, en réalité, par un jeu juridique...
Et le problème des binationaux, rien changé. Enfin bon...
Mais ouais. Sur le plan symbolique, ça n'était pas possible que la gauche se fonde dans cette espèce de mesure qui risquait en plus de priver de leur nationalité ceux qui l'avaient acquise par naturalisation. Et ça n'était pas possible sur le plan des principes. Donc, oui... C'était une erreur et je pense que ça a contribué à la résignation de François Hollande à ne pas se présenter.
Puisqu'on parle de la gauche et que l'élection présidentielle approche en s'écartant un peu du procès, quel regard vous portez-vous aujourd'hui sur l'état du Parti socialiste et de la gauche en général ?
Écoutez, moi, je suis une femme de gauche. Je suis plus membre du Parti socialiste, donc
oui,
je me garderai bien
de voter Macron.
Absolument.
Mais vous restez une femme de gauche.
Mais oui.
Pour
parce
autant,
que mes idées n'ont pas changé.
Est-ce que vous avez voté pour un président de gauche?
J'aimerais bien.
Mais là, en 2017.
Mais j'aimerais bien. Ah, est-ce que je...
Oui. Est-ce que vous avez voté pour un président de gauche?
Alors, en 2017, ouais. Macron était-il de gauche? La réponse est non. Ouais. C'est bien évident, mais. Une semaine avant le premier tour de l'élection présidentielle, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait eu un attentat sur les Champs-Élysées, et qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore pris parti, mais on voyait que, dangereusement, le risque que Fillon ou Jean-Luc Mélenchon ne passe au second tour était de plus en plus fort. Et dans cette hypothèse-là, il y avait quand même un risque Le Pen. Donc, moi, j'ai fait comme un électeur de François Hollande sur deux, et comme la plupart des membres du Parti socialiste que je connaissais, j'ai voté Emmanuel Macron. Et honnêtement, je l'ai fait, je l'assume, je l'ai dit publiquement, ouais. Et au moins, ça a empêché le pire. Bon, maintenant, nous allons faire le bilan de ce quinquennat. Moi, je regrette, notamment sur les questions de protection sociale, sur les questions d'aide aux victimes, sur le régalien. Je trouve que le compte n'y est pas. Et j'aurais voulu un État plus fier de ce qu'il est, plus fort et surtout une vraie révolution écologique.
Pendant la Covid
et alors sur
en 15 secondes, on a terminé.
Sur la question de la Covid, la première année n'a pas été bien gérée, la seconde l'a mieux été. Mais j'espère que d'ici à 2017, nous aurons une belle candidature de gauche pour l'élection présidentielle à soutenir.
Merci Juliette Méadel.
Merci d'être venue et d'avoir témoigné sur ces attentats, puisqu'à l'époque vous étiez donc secrétaire d'État d'aide aux victimes, chargée de l'aide aux victimes.
Appelez-nous, exprimez-vous.